Alors, on était rendu à l'origine de la Terre. Le mois prochain, on fait une présentation par mois. Le mois prochain, on verra l'origine de la vie sur Terre. On verra aussi dans la quatrième présentation l'origine de l'homme. On parlera des hommes préhistoriques, entre guillemets, parce que de tels hommes ont déjà existé. On parlera de ça. Cinquième présentation, on parlera du déluge, de Noé et des fossiles. Je parlerai aussi de la datation. Ce matin, j'aurai pas le temps d'expliquer comment les scientifiques arrivent à une date de 4,6 milliards d'années pour l'âge de la Terre. Ce sera un petit peu long à expliquer, mais je le ferai dans une des présentations. Et la dernière présentation sera sur les dinosaures. Alors souvent, c'est la préférée. Je sais pas pourquoi, on aime tous le parc jurassique. Et ça finit pas toujours bien dans ces histoires-là, mais c'est quand même toujours intéressant à regarder. Alors là, j'essaie de changer ma diapo. Est-ce qu'on a enlevé le fil bleu? Est-ce qu'il est branché mon fil bleu après l'ordinateur? Oui? Sinon, quelqu'un va le changer manuellement. OK. Voilà, ça marche. Qu'on était rendu là. Alors, je reprends quelques paroles que j'ai dites la dernière fois. En lisant le chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit « Quelle économie de mots pour une si grande déclaration. » Alors, « Au commencement » nous démontre, puis les scientifiques sont d'accord avec ça, que l'univers n'a pas toujours existé, la terre n'a pas toujours existé, l'homme n'a pas toujours existé, mais dans un temps pré-éternel, avant tout ça, Dieu a toujours existé, la Bible nous le dit. Alors, « Au commencement », on voit la création du temps. On va en parler un petit peu tantôt. On voit la cause aussi. Dieu créa les cieux, créa l'espace, la matière, tout ce qui s'y trouve. Alors, on voit le temps, l'espace et la matière réunis dans un verset, tout ce qu'il faut pour un univers. Alors, comme je disais la dernière fois, puisque Dieu a créé le temps, Dieu lui-même, la Bible nous dit que Dieu ne vieillit pas. Dieu est éternel. Dieu est en dehors de cette création, en dehors de ce temps. Tantôt, on a chanté, dans le dernier chant cantique, on a chanté « Tu étais là dès la création ». On parlait de Jésus. Vous savez, Jésus était là. Jésus n'est pas arrivé sur terre, n'est pas né, si vous voulez, ou n'a pas été existé seulement quand il est venu sur terre. Il était dès les temps anciens. Il existait de toute éternité. Et Jésus était là dès la création parce que la parole nous dit que c'est lui qui a créé par sa parole. Alors, Jésus était là. Et dans Genèse, ce qu'on voit, on voit Dieu qui forme l'homme à son image. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit comment Dieu aussi arrive ici et comment Dieu vient à l'image de l'homme. On voit comment Dieu vient s'intégrer à sa création dans un but précis, naturellement, de rédemption. Donc oui, au début de Genèse, on voit plein de choses, c'est un récit narratif, mais on va voir à travers toute l'histoire de la parole, quand on fait la lecture, qu'à derrière tout ça, il y a une histoire de rédemption aussi. Que Dieu n'a pas été pris par surprise quand Adam a péché. Dieu avait laissé un libre arbitre à l'homme et avait donné une seule condition, on va le voir plus tard, mais Adam a péché. Naturellement, quand on regarde les versets, on voit que Jésus lui-même authentifie le récit de la Genèse en disant « N'avez-vous pas lu comment au commencement le Créateur créa l'homme et la femme? » Donc, dans Matthieu, on voit comment Jésus fait référence lui-même à ce livre de la Genèse. On va passer à la prochaine diapo. Alors, ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Alors, vous savez, par une belle nuit étoilée, en ville, c'est un peu difficile parce qu'on a un petit peu de pollution lumineuse, mais quand on est dans la campagne, par une nuit parfaite, l'observation des étoiles, l'œil nu peut discerner environ 2000 étoiles. Est-ce qu'il y a plus que 2000 étoiles? Oui, vous allez voir tantôt. Certains affirmeront être capables de discerner jusqu'à 2500 étoiles dans le ciel. Ce qui est impressionnant et surprenant, c'est que dans le livre de la Bible, alors que les peuples anciens vénéraient le soleil, Dieu Ra pour l'Égypte, le peuple babylonien, souvent c'était les Sumériens aussi, c'était la lune, pour eux, il y avait un nombre limité d'étoiles, mais dès les Écritures dans le peuple hébreu, on voit que pour eux, les étoiles, c'était comme les grains de sable. C'est-à-dire, c'était incalculable. Donc, on le voit déjà qu'on avait un nombre incalculable d'étoiles. Ce matin, ce que je vais faire, c'est vous situer un petit peu, faire Google Maps, mais à une échelle beaucoup plus grande. On va aller un petit peu plus grand. Alors, on va se situer un petit peu, c'est pour vous expliquer la grandeur de notre Dieu, parce que le verset précédent disait, les cieux racontent la gloire et l'étendue manifeste de ses œuvres. Et donc, on est sur la planète Terre, si vous en doutez, ben, ça c'est un autre problème. Mais on est sur la planète Terre et là, on va reculer. Alors, je fais Google Maps, mais on recule, juste pour vous donner un petit peu l'étendue, puis à quel point l'univers est grand. L'univers, c'est beaucoup plus grand que notre système solaire. Donc, présentement, on est sur la planète Terre. On voit, mon pointeur ne fonctionne pas sur une télévision, là, mais on voit qu'on est la troisième planète dans un système solaire. Alors, notre Soleil est en notre étoile à nous. Alors, les étoiles que vous voyez dans le ciel, ce sont d'autres soleils. Alors, notre système solaire, si on recule à la prochaine flèche, dans le fond à droite, en haut, on voit qu'on est une petite pointe sur dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Donc, on est un petit point parmi plein d'autres soleils. Alors, notre Soleil appartient à la galaxie qui se nomme la Voie lactée, et selon les scientifiques, il y aurait plus de 100 000 millions d'étoiles ou de soleils dans notre galaxie à nous, et notre étoile est quand même assez petite. Notre Soleil à nous est quand même assez petit. Comparé à d'autres étoiles, ça peut être aussi petit qu'un grain, des fois un petit poids à côté d'un Soleil immense. Alors, ça, c'est vraiment énorme. Il y a des soleils qui sont énormes dans notre galaxie. La distance qui, vous savez, on dit qu'il peut, et là je recule, là, on va aller juste à la prochaine, on est ce petit point dans notre galaxie, mais est-ce qu'il y a juste une galaxie dans notre univers? Non. Il y a des millions et des millions de galaxies, et aussi, les scientifiques ont découvert, à travers Hubble, à travers les télescopes, que non seulement il y a des galaxies, mais il y a des amas de galaxies, des super amas de galaxies. Donc, s'il y a dans notre propre système solaire à nous, il y a des millions d'étoiles ou de soleils, puis là, on a des millions de galaxies dans l'univers, il ne manque pas de place, c'est ça que je veux vous dire. Okay? Il y a énormément, c'est pour ça que je revenais tantôt à ce verset finalement qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». C'est énorme, et on est tout petit dans cette création-là. Alors, je vais juste lire le verset qui dit ici, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Donc, je vais vous parler un petit peu du temps. Tantôt, je vous disais, avant la création, Christ était déjà là, Jésus était déjà là, pas sous sa forme humaine, mais sa forme préexistante. Donc, il est là de toute éternité. Dieu était là de toute éternité. La Bible nous informe qu'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de notre Dieu. Il est le seul. Et le livre de la Genèse, c'est un récit narratif qui nous explique un petit peu toute la création de notre Dieu. Tantôt, on verra, est-ce que la création et les faits, est-ce que la science nous démontre, est-ce que ça peut concorder, est-ce que les faits s'alignent plus avec le récit de la création ou plus avec le récit du Big Bang et le récit de l'évolution. On en parlera dans quelques minutes. Mais je voudrais vous parler un petit peu du temps, parce que un des plus gros arguments que vous allez avoir quand on approche quelqu'un qui est scientifique un peu et qui ne croit pas au récit biblique, il va te poser la question, quel âge crois-tu qu'a la Terre? Et naturellement, si vous allez dans le récit biblique et vous faites la généalogie des âges, on a des temps aussi qui sont marqués dans la Bible. On sait que Noé a commencé, il y avait 600 ans lors du déluge. On a des âges aussi, on est capable de faire la somme. On a un âge à peu près de 6000 ans, on recule environ 6000 ans si on fait la somme. Entre 6, c'est pas parfait parce que les lignées généalogiques sont peut-être pas tout à fait parfaites, mais on est entre 6 et maximum 10 000 ans, là. Je crois plus vers le 6000, mais quand même, vous comprenez qu'on est très, très loin du 4,6 milliards d'années que les scientifiques donnent. Alors, le temps est important parce que l'argument premier qu'un scientifique, un évolutionniste va vous donner, c'est comment la Terre peut avoir 6000 ans si on a des étoiles qui sont à des millions et des millions d'années-lumière. Alors là, ça devient embêtant. Et on va en parler dans quelques minutes. Mais effectivement, il semble avoir des étoiles qui sont très, très loin dans l'univers. Et vous savez, les scientifiques disent que notre univers est en expansion. Alors avant, on va parler, je vais vous montrer une petite vidéo dans quelques minutes qui parle du Big Bang, mais je vais juste prendre quelques instants pour parler du temps. Le temps, qu'est-ce que le temps? vous avez peut-être une notion du temps qui est erronée ou une notion du temps qui n'est pas tout à fait parfaite. On a cette notion du temps que le temps s'écoule de façon linéaire partout dans l'univers de la même façon, qu'on soit en haut d'un sommet d'une montagne, dans une vallée, qu'on soit à New York, qu'on soit peu importe, à Paris, le temps s'écoule pareil, de façon linéaire. On l'a cru longtemps comme ça, jusqu'à temps qu'un personnage arrive dans l'histoire qui s'appelait Einstein. Et Einstein avait d'autres pensées, et qui s'appelle la pensée de la relativité. Et Einstein, ce qu'il nous disait, et on va aller voir, c'est que pour lui, le temps ne s'écoulait pas de façon égale, parce que le temps, pour lui, était une des composantes de l'univers. C'est-à-dire que lui, le représentant un petit peu comme, imaginez-vous si on mettait une boule de billard ou une boule de quille sur un trampoline et tout tend à aller vers la boule, tout est attiré vers la boule. Donc, cette trampoline-là représente le temps. Ce que Einstein a disait, c'est que le temps semble flexible, semble être manipulé par la gravité, semble être manipulé par d'autres choses. Alors, rapidement, ce que je vais faire, c'est vous parler de quelques expériences. Mon but, c'est juste pour vous montrer, on va tenter de répondre à la question de l'âge des étoiles dans quelques minutes. C'est que le temps, effectivement, semble être affecté par la vitesse. Donc, plus vous voyagez vite, puis inquiétez-vous pas, votre voiture n'arrivera pas à ces vitesses-là, là. Plus on approche de la vitesse de la lumière, le temps arrive à zéro quasiment. Alors, selon la théorie d'Einstein, plus on voyage vite et on approche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu l'exemple qu'Einstein lui-même donnait, c'est que, imaginez-vous que vous avez un frère jumeau et que vous restez sur la Terre, votre frère embarque dans un vaisseau spatial qui quitte à très haute vitesse, voyage à la vitesse de la lumière. Alors, le frère qui est dans le vaisseau spatial, selon Einstein, ce qu'il disait, c'est que si lui est dans le vaisseau spatial, selon ses propres calculs, pendant une journée, 24 heures, voyage à des vitesses extrêmes et revient sur la Terre, ben ça semblerait logique que sur la Terre, son frère aussi a vécu une journée, mais ce n'est pas le cas. Parce que le temps ralentit pour la personne qui était sur le vaisseau. Donc, quand il revient, ça fait peut-être 1000 ans ou 10 000 ans que le temps qui s'est écoulé sur la Terre. Alors, comment qu'on peut prouver ça? Einstein disait aussi que la gravité, donc dans l'espace, la Terre a une gravité. C'est même difficile d'expliquer la gravité. Si je vous demandais d'expliquer la gravité, on donnerait la notion simple que la gravité est une force qui a d'attraction. Mais c'est plus complexe que ça. Même les scientifiques ont un petit peu de difficulté à expliquer ce qu'est la gravité, mais on la vit. La gravité affecte la lumière et affecte le temps aussi. Donc, plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Et ça aussi, ça a un impact. Donc, un exemple concret, c'est que si on était près d'un trou noir, que la gravité est extrême, bien, le temps s'écoule très lentement comparé à un endroit où on est loin de ce trou noir. Sur Terre, est-ce qu'on peut faire des expériences pour tenter de prouver cela? Alors, effectivement, je ne voulais pas partir mon vidéo, mais ça donne une bonne indication qu'on n'a pas mis ça. Donc, on va juste revenir. oui, on fait des expériences. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux horloges très précises. Vous savez, les montres les plus précises aujourd'hui perdent, à moins que vous ayez beaucoup de milliers de dollars à dépenser, vous avez probablement pas ce genre de montre-là, mais il y a des montres qui perdent 1 à 2 secondes par année. Tellement qu'ils sont précises. Mais les horloges dont je vous parle, qui sont des horloges atomiques au césium, perdent environ 1 seconde au million d'années. Donc, ils se décalent. C'est extrêmement précis. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont mis deux horloges, ils ont synchronisé. On en a mis une horloge dans un avion supersonique, supposons, et on les synchronise, et l'horloge, quand elle revient, elle n'est plus synchronisée. C'est des fractions et des millionièmes ou des millièmes de seconde, mais elle n'est plus synchronisée. Pourtant, si on les laisse une à côté de l'autre, sans les bouger, ils restent synchronisés pendant des millions d'années. Mais si on en bouge une à haute vitesse, la vitesse le plus vite qu'on peut atteindre sur Terre, bien, on crée déjà un décalage. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'on prend ces deux horloges-là, pour tester la théorie d'Einstein, on les synchronise, on en amène une au sommet d'une montagne, une dans le sommet le plus bas, plus près de la Terre qu'on peut, où la gravité est plus grande. Et encore une fois, on remarque qu'ils se décalent. Donc, les scientifiques ont démontré que la théorie d'Einstein de la relativité par rapport au temps, il avait raison. Tout ça pour répondre à la question, pourquoi qu'on a des étoiles qui sont à des milliers ou des millions d'années-lumière, tandis que sur Terre, Si on croit le récit biblique, on est peut-être à une histoire de 6 000 ans, donc les étoiles sont beaucoup plus loin que 6 000 ans. Il faut comprendre que, premièrement, on a le phénomène d'expansion, donc quand l'étoile a été créée, elle n'est plus au même endroit. L'autre chose qu'on doit comprendre, c'est que le temps ne s'écoule pas pareil d'un endroit à l'autre sur la Terre. On dit que la planète Terre est dans un genre de vallée gravitationnelle, ce qui fait que le temps s'écoule plus lentement sur Terre qu'ailleurs dans l'univers. Je ne peux pas vous le prouver, mais c'est une théorie sur laquelle travaillent des gens. D'ailleurs, les scientifiques ont leur propre problème avec le Big Bang. Oui, ils peuvent dire que les étoiles sont dans des millions d'années-lumière, mais on va regarder une petite vidéo qui vous résume un petit peu le Big Bang, parce que ça serait un peu long pour moi de ne faire que ça. Okay. On part avec la vidéo. Est-ce qu'on a du son?
Comment l'univers a-t-il commencé? Certaines personnes disent qu'il est en train de distance il y a des milliards d'années lors de notre conversation. Est-ce normal? Premièrement, le problème de notre cercle. Chaque fois que les cercles sont réalisés, nous sommes en train de faire toujours une partie de la Terre et l'autre de la Terre. Les particules dans la Terre dans les mains, elles se chargent trop haut. Si on demande le total de réponse de notre conscience, c'est égal à la Terre et notre matière, l'univers en gros est simple. Deuxièmement, il y a le problème comme le modèle de l'État, c'est que l'univers avance très vite et implique une rapide expansion. Ceci laisse le grand raison de ton choix, puisque même 13 milliards d'années, encore plus jeune que les températures solaires. Les univers actuels des mondes des températures sont largement les mêmes dans le monde. Aucune région de ton choix comprend. Le troisième problème est celui de l'extérieur. L'avenir des galaxies visibles est une orientation vers 1 milliard d'années. Alors, ces galaxies lointaines devraient toujours apparaître comme étant une matière chaotique dans les effets à 2 degrés. Par contre, les galaxies lointaines apparaissent un peu plus fortes que les étoiles.
Éloigné de l'univers nous révèle des galaxies d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. En plus de ces problèmes scientifiques, le Big Bang contredit la Bible. Le Big Bang a besoin de milliards d'années, mais la parole de Dieu décrit le commencement de l'univers comme ayant pris que 6 jours, il y a que quelques milliers d'années. Le Big Bang enseigne que le soleil et les étoiles ont été formés avant la Terre, mais la Bible dit le contraire. Non pas par une explosion criblée de problèmes, mais par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
Alors, le Big Bang, c'est la façon que les évolutionnistes expliquent la création ou comment l'univers s'est créé. Est-ce que c'est accepté par tous les scientifiques? Mais ça, je vais vous répondre rapidement, non. C'est une branche de science qui est présentement, il y a des grands débats dans cette, on appelle ça la branche de la cosmogénie, Il y a beaucoup, beaucoup d'arguments par rapport à cela. D'ailleurs, il y avait un article sur TVA, puis dans les journaux dernièrement, qu'un scientifique, il donnait ses arguments pourquoi lui ne croyait pas à la théorie du Big Bang. Il ne remplace pas avec la théorie de la création, si vous voulez, mais il ne croit pas à la théorie du Big Bang, donc ils sont à la recherche de d'autres choses, parce qu'il y a des problèmes. Vous avez vu tantôt dans la petite vidéo, si vraiment on a des galaxies au fin fond de l'univers qui sont à 13 milliards, 14 milliards d'années. Alors, pourquoi qu'on ait des galaxies qui sont encore jeunes? On voit des spirales. Alors, imaginez-vous, si moi je brasse une soupe, puis vous voyez encore la rotation dans le bol de soupe, puis je vous dis, bon, ben, ça fait 20 secondes, pas trop de difficulté à me croire, mais si je vous dis, oh, ça fait 20 ans que j'ai brassé ça, puis ça tourne encore, ça devient un petit peu complexe comme réponse. Et d'ailleurs, on a aussi le fait que l'univers devra avoir des points chauds et des points froids parce qu'il est relativement jeune par rapport à ce que les scientifiques disent. Et pourtant, on a une constante au niveau de la température moyenne de l'univers et ça nous démontre que le modèle du Big Bang ne fonctionne pas très bien par rapport à ça. L'autre chose qui ne fonctionne pas très bien, puis je vais en parler rapidement sans rentrer trop en détail, c'est qu'une explosion crée rarement de l'ordre. Alors, exemple, ça ne m'est pas, puis de notre vécu, on n'a jamais vu ça, de le vécu de l'humanité, qu'un volcan explose et toutes les roches et tout le magma, tout ce qui revole crée une ville avec des gratte-ciels, tout ça. C'est jamais arrivé. Okay? Parce que pour donner de l'ordre, c'est pas juste l'énergie qu'il faut. Il y a une complexité dans l'ordre. Il faut habituellement des données, il faut de l'information pour coder et amener tout ça. Alors, la première, je vais vous parler rapidement de la première loi de la thermodynamique. Ce sont des lois. Donc, on n'est plus dans des théories. Alors, des lois, c'est ce qu'on observe, qu'on peut répéter et répéter en laboratoire et qu'on l'observe. La première loi de thermodynamique dit, c'est clair, qu'habituellement, l'énergie, la matière n'arrive pas de nulle part. Dieu peut le faire, ex nihilo, c'est en latin, qui veut dire de rien, partir de rien. Dieu, lorsqu'il a fait la création, est parti de rien. Mais les scientifiques voudraient nous faire croire que toute la matière était condensée avant le Big Bang dans un petit point, pas plus gros qu'une pointe d'un crayon. Et là, si vous leur posez la question, mais vient d'où cette matière-là? Elle était là. Mais la première loi thermodynamique, c'est que la matière et l'énergie n'arrivent pas spontanément. Pourquoi qu'elle était là? Elle n'arrive pas. Elle a explosé. D'où vient l'énergie qui a fait exploser ce point-là? Les scientifiques n'arrivent pas à répondre à ça. Et pourtant, la première loi de thermodynamique nous dit que tout se transforme, mais rien ne se crée. On ne peut pas créer de la matière à partir de rien ou de l'énergie à partir de rien. Alors ça, c'est la première loi de la thermodynamique. La deuxième loi de thermodynamique, ce qu'elle dit, c'est que au niveau du changement de la matière, quand on met de l'énergie, ben tout a tendance à aller vers le désordre et le chaos. Alors, votre voiture, elle est beau être neuve, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle dépérit tranquillement. C'est l'entropie. Je ne veux pas faire peur ou faire de la peine, mais même l'être humain, le vivant, va vers le dépérissement tranquillement. Okay? On dépérit. Veut pas, on vieillit. Certains, la couleur des cheveux commence à nous le dire. La souplesse de la peau commence à nous avertir que hop, on dépérit tranquillement. C'est pas agréable, mais ça fait partie de la deuxième loi de thermodynamique qui dit que tout tend vers le désordre ou l'entropie, tout tend à se désagréger. Donc, le Big Bang contrevient à ces deux lois-là. Il y avait de la matière puis de l'énergie. Première loi dit, elle vient d'où? On n'est pas capable d'y répondre. Et la deuxième loi de la thermodynamique dit que quand il y a une explosion, il y a beaucoup d'énergie, à moins d'avoir, comme je vais vous montrer dans quelques minutes, un système qui est capable de capter cette énergie-là, bien, cette énergie-là, tout le temps vers le désordre. Un volcan, quand ça explose, ça crée le désordre et le chaos, ça crée rarement une belle ville toute organisée. C'est jamais arrivé. Alors, vous parlez un petit peu d'énergie. Alors, on a eu des cas où, malheureusement, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, il y a beaucoup d'énergie qui a été lancée sur les bateaux, ça ne les a pas améliorés. Ça a fait une grosse explosion, et quand la réplique américaine est arrivée et qu'ils ont lâché leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki, ça n'a pas non plus donné un effet où ça a amélioré la ville. Vous comprenez que beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le soleil, c'est beaucoup d'énergie, mais de l'énergie seule, sans avoir un système complexe, il y a des exceptions qu'on voit, mais dans l'être vivant, quand vous voyez la petite feuille au bout, c'est qu'elle peut prendre l'énergie du soleil, contrairement à votre voiture qui, la peinture s'effrite après un bout de temps, elle a un système, un mécanisme, c'est comme une machine finalement, que la chlorophylle, donc dans son système est encodée, il y a de l'information dans son système génétique, est encodée une machine ou un système pour capter l'énergie du soleil, la convertir et créer de la matière. Mais on parle du vivant, là. Alors, comment tout ça serait arrivé durant le Big Bang, puisqu'on n'a pas de rien de vivant, à part que s'il y a un créateur qui contrôle tout ça. Puis je ne dis pas que Dieu a utilisé le Big Bang nécessairement, parce qu'il aurait pu claquer des doigts, puis la planète Terre est là. Évidemment, il aurait pu ne pas prendre 7 jours ou 6 jours, il aurait pu faire tout ça rapidement. Donc, rapidement, c'est un petit peu ce que je voulais vous parler, que le Big Bang contrevient à deux lois fondamentales de la science. Alors, on va regarder, est-ce que l'origine de la Terre, 4,6 milliards d'années ou 6 200 ans, supposons qu'on s'en tient au chiffre le plus bas. Alors, on va regarder le récit biblique. Que je ne regarde pas les jours 1 à 6, là, parce que ça serait un peu long. Que je vous donne rapidement l'information. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre, on l'a lu tantôt. Certaines personnes voudraient mettre un espace de temps indéterminé entre le premier verset et le deuxième verset. Alors, il n'y a pas de raison de croire cela, puis vous allez voir tantôt qu'il y a même des raisons fondamentales bibliques de ne pas faire ça. On va y revenir dans quelques minutes. Alors, je le lis rapidement. La terre était informe et vide. Il y a des couleurs parce qu'il y a des mots hébreux que je vais vous parler tantôt. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu crée la lumière, mais le soleil n'est même pas créé, il va être créé plus tard. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, on revient. L'autre, c'est marqué, Dieu parle de jour. En hébreu, le mot jour, c'est yom. Donc, effectivement, le mot yom ou le mot jour en français, on pourrait l'utiliser pour dire un temps précis, comme je pourrais dire dans les jours de Noé, où je parle d'un temps indéterminé. Ou si je dis dans le temps de la guerre civile ou dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, vous comprenez, on peut avoir un espace de temps. Mais dans quel sens est-ce que l'auteur du récit biblique a voulu utiliser ce mot-là? Alors, le fait que le récit ici, on sait que c'est un récit narratif, ce n'est pas un récit poétique ni prophétique d'ailleurs, donc on n'essaierait pas de dire qu'un jour égale mille ans, mille ans égale un jour, c'est qu'on n'est pas dans le prophétique ici, on est vraiment dans le narratif. Donc, les sept jours de création, on voit que le fait qu'il associe le jour 1, le jour 2, il va dire ce fut le premier jour, le deuxième jour. D'ailleurs, l'auteur va aussi dire il y eut un matin, il y eut un soir. Alors, si je vous effaçais toutes les idées préconçues que vous aviez à propos de l'âge de la terre, je vous demandais, est-ce que quelqu'un pensez-vous était l'intention de l'auteur quand il écrit jour 1, jour 2, jour 3, il y a un matin, un soir, jour 3, il y a un matin, un soir? Est-ce que l'auteur, son intention, c'était de parler d'une journée de 24 heures ou une journée de 1000 ans? D'ailleurs, 1000 ans, ce serait même pas assez long. Alors, je vous dirais que tous les théologiens puis ceux qui sont connaissent très bien l'hébreu vont s'entendre pour dire au moins une chose que l'auteur du livre de la Genèse avait en tête des journées de 24 heures. L'interprétation peut être différente pour certaines personnes, mais l'auteur lui-même, s'il avait en tête 24 heures quand il mentionnait cette journée-là. L'autre argument, qui est un argument bidon un petit peu, des fois, on va entendre les gens utiliser 2 Pierre 3, 8 pour dire, ben, vous savez, pour le Seigneur, un jour comme mille ans comme un jour, ils vont dire, ouais, mais peut-être que pour le Seigneur, lui, ce jour-là, le jour 1, c'était 1000 ans. Ben, c'est, même si je m'accordais avec vous puis je vous croyais, 6 jours, ça fait 6000 ans. Même si la création avait pris 6000 ans plutôt que 6 jours, ben, on est quand même très loin du 4,6 milliards d'années. On est très, très loin. D'ailleurs, si on est pour faire ça, pourquoi on ne ferait pas l'argument inverse de dire ben, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans comme un jour, donc pourquoi qu'on ne dirait pas 1000 ans comme un jour aussi? Donc, s'il y a eu 2000 ans après entre Adam et Abraham, ben, peut-être finalement ça ne voulait pas dire 2000 ans, mais 2 jours. Donc, ça, on pourrait utiliser l'argument dans l'autre sens. Parce que, mais vous comprenez que c'est un argument qui, parce qu'on part d'un principe où l'argument qui est utilisé dans 2 Pierre 3, 8, c'est par rapport au prophétique et non par rapport à un récit historique. Est-ce qu'il y a un espace de temps indéterminé entre 1 et 1, 2? Alors, quand on arrive dans ce partie-là du verset, c'est le verbe hébreu « aya ». La terre était informe et vide, mais on pourrait la traduire aussi, dépendamment du contexte, « devint » ou « est devenu informe et vide ». Et certains vont traduire de cette façon-là. Parce qu'ils ont en tête certains récits, entre autres Isaïe 45, qui va dire, ben, parce que informe et vide, c'est, ça vient du mot hébreu tohu, informe, bohu, vide. Et dans Isaïe, ça dit que Dieu n'a pas créé la terre pour être informe et vide. Donc, ils vont dire, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit entre le verset 1-1 et 1-2. Donc, ils vont dire, à partir du verset 2, il y a vraiment 6 jours, mais entre le verset 1 et le verset 2, ben, il y a quelque chose qui s'est produit, peut-être un jugement sur la planète Terre et tout ça. Le problème avec ça, c'est que si on met un espace de temps et on le fait parce qu'on croit qu'il y avait une création ou des gens sur la planète Terre avant Adam, on vient de placer la mort avant Adam. Et on a un problème parce que le livre de la Genèse nous explique la création, nous explique l'origine du péché. Le livre aux Romains nous explique toute la doctrine du péché et le besoin de rédemption. Et si on vient placer la mort finalement avant le péché d'Adam, ben, tout le livre aux Romains ne sert absolument à rien. La rédemption, la mort de Christ sur la croix, ben, c'est un canular. Pourquoi il avait besoin de venir si la mort n'est pas arrivée par le péché d'Adam, mais plutôt est arrivée entre le verset 1 et 1-2? Donc, non seulement on dit que le récit, à ce moment-là, l'information est erronée, on vient aussi dire que, pire que ça, on vient dire que c'est induire en erreur. Au niveau de la doctrine. Donc, personnellement, si j'avais à vous dire, je ne crois pas là, qu'il y ait un espace de temps. C'est sûr que si vous ne mettez pas de création entre 1-1 et 1-2, je n'ai pas de problème. Mais tantôt, je vais vous montrer rapidement beaucoup d'indices scientifiques que la Terre pourrait être jeune. Alors, je vous lis un petit verset parce que ça peut être intéressant pour certains. Parce que, Alors, vous savez, l'Éternel, ça dit 1:26. Juste être à la bonne place. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, toute la terre, et les reptiles. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. On a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux animaux, qui ont un souffle de vie, eux aussi, ont une âme, ont des émotions, mais ils n'ont pas cet esprit, ce rouage, ce néphèche-là que Dieu a insufflé en l'homme. Donc, il y a seulement deux créatures dans la création de Dieu qu'on voit qui sont capables de communier avec Dieu, c'est-à-dire de louer, d'adorer Dieu. On voit les anges et on voit l'homme qui est à l'image, qui est incapable de rentrer en relation avec Dieu. D'ailleurs, quand que Adam a péché, la phrase est quand même intéressante parce que Dieu va lui dire, quand il est mis dans le jardin d'Éden, que bon, tu donnes l'ordre là, de s'en occuper et puis tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et puis, il lui donne une seule restriction, mais il lui dit, en conséquence, si jamais tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En hébreu, c'est un petit peu drôlement dit, ça dit, mourant, tu mourras. Alors, dès que Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé, qu'ils ont été au-delà de, ils ont fait à leur tête, si vous voulez, qu'ils n'ont pas écouté le Dieu, et le Seigneur, il y a une connaissance qui leur sont venues par rapport au bien et au mal. Et on voit comment ils se sont cachés. On voit comment Dieu, dans l'Ancien Testament, va à la recherche de l'homme. Il aurait pu lui dire, il savait exactement où était Adam. Il n'avait pas besoin de dire, Adam, où es-tu? Mais il le fait. On voit comment Dieu est à la recherche de restaurer la relation avec l'homme dans l'Ancien Testament, et on le voit aussi dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, c'est le même, c'est le deuxième Adam qui vient. Jésus est venu dans la personne du Christ, et son but, c'était de restaurer l'homme dans une relation avec Dieu. Et on l'a chanté ce matin, comment que l'amour de Dieu nous cherche. Dieu nous dit aussi dans les paraboles comment il va laisser les 99 brebis à la recherche de celle qui est perdue. Alors, le but de Dieu est vraiment de restaurer l'homme dans une relation où ce que lui, Dieu, est le souverain, et que l'homme est en obéissance. Et le problème commence quand nous, on se place à la place de Dieu, qu'on veut prendre les décisions, faire les propres choix, et c'est là que la problématique arrive. D'ailleurs, si on regarde le livre d'Exode, dans Exode, ça nous dit, Dieu va dire à son peuple, puis il se donne en exemple, vous allez travailler 6 jours, le 7e jour, vous allez vous reposer, parce qu'il va dire dans le verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui s'y trouve. » Il s'est reposé le 7e jour. Alors, cet argument-là que Dieu donne à son peuple, ou cette explication-là que Dieu donne à son peuple, ne tiendrait pas si Dieu avait créé la terre en 6 milliards d'années ou en 6 000 ans. Il ne pourrait pas dire « Je l'ai fait en 6 jours, donc vous allez travailler 6 jours. » Cet argument-là ne tiendrait pas si Dieu l'avait fait différemment. L'autre chose, je vais aller rapidement, je vais juste lire la dernière ligne. Ça dit que dans le livre de Job, qui est un livre ancien, que quand Dieu a créé la terre, les anges se sont réjouis. Donc, on sait que les anges ont été créés. Quand ça dit dans le verset 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il a tout créé. Là. Les anges n'existaient pas, Dieu a tout créé au verset 1:1. Mais quand on arrive au 4e jour, on voit que l'homme a été créé au 6e jour, tout ça. On voit que les anges sont là. La Bible nous dit qu'ils même se sont réjouis de la création de poussaient des cris de joie quand l'homme a été créé, quand la terre a été créée. Alors, les anges ont probablement été créés en premier. Il s'est produit quelque chose, là, je n'irai pas en détail là-dessus, parce que ce n'est pas le but, mais on sait que Lucifer, qui était un ange, archange, qu'on appelait couvreur, qui a chuté durant ce temps-là. On le retrouve dans le jardin d'Éden, qui est déjà en état de chute. Et donc, malgré qu'on voit l'ordre de la création, les anges, la terre et l'homme ont été créés par la suite, on voit que Lucifer était déjà tombé. Lucifer veut dire astre brillant. Donc, il était un archange très près de Dieu. La Bible nous dit même qu'il était en charge de la musique. Là, je ne vous lirai pas tous les versets dans Isaïe 14, puis dans Ézéchiel, mais on voit que c'était un ange qui était très près de Dieu. Donc, on voit par contre que dans le jardin d'Éden, il est déjà déchu. Ce qui est intéressant aussi, puis je ne l'expliquerai pas pourquoi, mais les âges sont réels. La Bible nous donne les âges des premiers hommes. Et ce qui est intéressant, c'est la grande longévité de ces hommes-là dès la première, malgré que Adam mourant, tu mourras. Un peu comme un ventilateur que vous débranchez du mur, le ventilateur va continuer de tourner, mais éventuellement, il va arrêter. Alors, aussitôt qu'Adam a péché, sa vie physique n'a pas arrêté, mais il était déjà mort spirituellement dans ses péchés, sa relation avec Dieu. Donc, il y a une mort spirituelle, puis il y a une mort physique. Donc, mourant physiquement, ben, spirituellement, tu es déjà mort aussi, et tu t'en vas vers une mort s'il n'y a pas l'espoir d'un rédempteur. Alors, ce qui est intéressant, vous regardez, c'est qu'à l'époque de Noé, qui est le dernier en bas, l'avant-dernier, on voit que Noé, à cause de la grande longévité, a été quand même contemporain pendant quelques années de Enoch. Donc, de l'arrière-petit-fils, si vous levez, ou la petit-fils plutôt de Adam. Donc, il n'a pas connu Adam, mais Noé a connu quand même Seth, le fils de Noé. Adam est mort quelques années avant, une trentaine d'années, puis après son fils, donc le petit-fils, il pouvait le connaître. Donc, Noé pouvait même parler avec le petit-fils, et si l'histoire d'Adam, on n'était pas loin, là, on comprenait que ça a longévités incroyables. Mais vous devez comprendre que dans l'histoire de l'humanité, il y a avant le déluge et après le déluge. J'en parlerai dans une autre conférence. Les conditions sur Terre étaient drôlement différentes. Et ce qui fait que l'homme, puis on était beaucoup plus proche de la création originale, donc l'homme vivait beaucoup plus longtemps. Abraham lui-même a vécu 175 ans. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre qui, d'ailleurs, je pense pas qu'il y en ait, là, qui vivent 175 ans. Donc 4,5 milliards d'années, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on parle de... Comment qu'on arrive à établir un âge pour la Terre? Donc, c'est sûr que les scientifiques disent 4,6. Nous, on aurait tendance à dire, si on croit dans le récit biblique, beaucoup plus jeune que ça, mais comment qu'on peut établir, est-ce que les faits en science concordent plus avec le récit biblique ou avec le récit de la science? Donc, pour y arriver, ce qu'on va faire, là, je vais vite, mais je vois le temps, on trouve un coffre au trésor et on se demande quand est-ce que ce coffre-là, on le trouve dans le fond de la mer, dans une épave, et on se demande quand est-ce que coulé. Alors, une bonne façon de savoir ça, c'est d'avoir des facteurs qui délimitent un peu. Donc, si on trouve des pièces de monnaie, une qui date de 1650 et l'autre de 1500, bien évidemment, le bateau n'a pas coulé en 1500, parce qu'il ne pourrait pas avoir des pièces de 1650 dedans. Vous comprenez? Donc, on se dit, bien, il a coulé après 1650, forcément. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner quelques évidences que la Terre peut être encore très jeune. Et malgré qu'elle a une apparence de vieillesse, en réalité, ce qu'elle a, ce n'est pas une apparence de vieillesse, c'est une apparence de catastrophe sur la Terre. Et quand je vais vous parler du Grand Canyon, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé, parce que le Grand Canyon semble de donner des âges incroyables, mais peut-être que c'est peut-être le signe d'une grande catastrophe qui s'est passée dans ce secteur-là, suite au déluge. Donc, on va faire la même chose. L'âge de la Terre, les scientifiques, je l'explique pas aujourd'hui, 4,6 milliards d'années, ils y arrivent avec des datations radiométriques en datant certaines la roche, et surtout avec, supposons, l'uranium ou le strontium, ils vont faire de la datation radiométrique. Ils présument des choses. Donc, c'est sûr que je vais faire la même chose avec un autre côté de la science qui montre que la Terre est jeune. Je vais présumer certaines choses. Mais on va commencer avec la population mondiale. Alors, la population mondiale, présentement, en 2020, je suis allé voir, au 1er janvier, on estimait la population mondiale à 7,7 milliards. On recule de 20 ans, en 2000, 6 milliards. En 1985, 5 milliards. En 1800, 1 milliard. Et on peut reculer comme ça. Et ce qui est vraiment impressionnant ou intéressant, c'est que quand on recule, ça nous amène, parce que c'est une courbe exponentielle, ça nous ramène à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, 4600 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé 4600 ans, 4400 ans avant Jésus-Christ? Le déluge. Et là, on tient compte des guerres, on tient compte des épidémies, on tient compte de tout ça. Donc, la population actuelle mondiale s'explique bien si on parle de 4600 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on a 8, un couple de 8, on a 8 personnes, et la population s'agrandit de façon naturelle, comme on la voit présentement, naturellement, c'est exponentiel. Elle s'explique bien. Alors, et ça concorde bien avec le déluge. Si la Terre et l'humanité a vraiment, si la Terre est, le vivant est sur la Terre depuis 3 milliards d'années, et puis que l'homme est là depuis, exemple, même si c'est juste 100 millions d'années, on n'a pas assez d'humains sur la planète pour expliquer 100 millions d'années. Donc ça, c'est un des faits. L'autre chose qui est intéressante, c'est que notre Terre se refroidit. Alors, pour ceux qui sont frileux, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais si vous ne vous réchauffez pas, là, de façon géothermique, la Terre se refroidit et les scientifiques ont calculé qu'elle se refroidit 2 fois plus rapidement qu'elle se réchauffe. C'est sûr qu'il y a un système, il y a un peu de réchauffement parce qu'on a un champ magnétique et tout ça, mais elle se refroidit malgré tout 2 fois plus rapidement. Ce qui fait que si elle se refroidit, ça veut dire que dans le passé, elle était plus chaude. Si on recule de 6 000 ans, ce n'est pas un problème. Mais si on recule de 3 milliards, 4 milliards d'années, on a un problème. Vous le voyez. Et l'autre chose, c'est que s'il y a encore de la chaleur sur Terre, là, je vais dans l'autre sens, si elle a commencé à se refroidir il y a 4,6 milliards d'années, elle ne devrait plus être chaude. Elle devrait être froide. C'est un petit peu comme si j'avais un café ici, puis que je vous dis, ça fait 20 ans qu'il est là, vous êtes chaud. Hey, c'est chaud. C'est pas un raisonnement qui est normal. Donc, le fait que la Terre est encore chaude, qu'on ait des planètes qui sont encore chaudes, nous démontre que la Terre est jeune. Notre Soleil se consomme. Alors, le Soleil, c'est la fusion nucléaire qu'on voit pas, dans le sens que sur Terre, on fait de la fission, on sépare l'atome, mais là, c'est de la fusion. Et on sait que le Soleil se consomme. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur encore une fois. Le Soleil, parce qu'il se consomme, il réduit de 6 pieds à l'heure. Il est tellement immense, ça ne fait pas une grosse différence. Et inquiétez-vous pas, les scientifiques ont calculé que la Terre va être encore habitable pour 1,75 milliard d'années avant que le Soleil ait plus de carburant. Donc, on est bon pour un petit bout. Si on recule de 6 000 ans, donc si le Soleil rapetisse, ça veut dire que le 6 000 ans est un petit peu plus gros. Alors, les calculs ont déjà été faits. Là. Il était 96 000 km plus gros. On est quand même à une distance de 150 millions de kilomètres de la Terre. Donc, 90 000 km sur 150 millions. Il aurait fait un petit peu plus chaud sur Terre. Ça aurait fait plaisir aux gens frileux. Mais si on recule de 4 milliards d'années, le Soleil a englouti la Terre. Donc, notre Soleil nous démontre qu'il n'est pas... C'est une étoile assez récente et elle n'est pas là depuis des milliards d'années. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les scientifiques ont calculé qu'à cause des rayons du Soleil qui frappent la matière radioactive, parce qu'on a des atomes qui sont radioactifs, exemple, on sait que l'uranium-238 se décompose et ça libère de l'hélium dans l'atmosphère. Et l'hélium est quand même un taux, on le sait à quel taux il se dégage présentement. Donc, les scientifiques sont même capables d'aller dans la haute atmosphère. Et l'hélium, même s'il y en a un peu qui s'échappe dans l'atmosphère, ils connaissent un petit peu à quel point le rythme auquel il fait cela. Et le gaz s'échappe, oui, il s'échappe des roches, suite au rayonnement, s'en va dans l'atmosphère. Ils ont calculé, les scientifiques, que d'après le taux d'hélium qu'il y a dans l'atmosphère, l'atmosphère aurait à peu près maximum 2 millions d'années. C'est beaucoup plus grand que notre 6 000 ans, mais c'est beaucoup plus petit que le 6 milliards d'années ou 6 000 millions d'années de ce que les scientifiques ont besoin. Alors, ou si vous voulez, de 4,6 milliards d'années. Alors, voici une autre preuve. L'autre chose... qu'on déteste, une bonne gorgée d'eau salée quand on est à la mer. Alors, vous savez que les océans deviennent de plus en plus salins. Et donc, si on fait le processus inverse, à quelle époque est-ce qu'elle n'était pas saline? Bien, écoutez, présentement, on sait aussi que si vraiment, si on recule, ça va, ça nous démontre que probablement dans le passé, avant le déluge, il n'y avait pas d'eau salée, c'était peut-être de l'eau douce. Mais ce que ça nous démontre, c'est que si vraiment... la vie est née dans les océans primitifs il y a 3 milliards d'années. Présentement, on a un taux de salinité d'environ, aujourd'hui, on dit 3,4%, l'océan serait tellement salin qu'il n'y aurait pas de vie possible dans l'océan. Alors, ça nous démontre que l'océan lui-même nous démontre que la Terre ne peut pas être si vieille que ça. Encore une fois, je présume que ça se dégrade toujours au même rythme. On en a parlé tantôt, les vitesses de rotation, le centre tourne plus rapidement que l'externe. Donc, quand on a des galaxies qui sont jeunes, on voit des spirales, on voit que ça tourne bien, on voit tout ça clairement. C'est pas tout chaotique. Donc, quand on voit une spirale comme ça, on voit une galaxie qui est jeune. Alors, c'est difficile pour un scientifique d'expliquer comment ça se fait qu'on voit à 14 milliards d'années-lumière, supposons aux extrémités de l'univers, des galaxies qui sont matures, qui sont jeunes et qui sont très belles, qui ne sont pas chaotiques. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un peu comme si je brassais de la soupe. Il y a un beau tourbillon, tout est très beau, tout est très franc, Mais on ne verrait plus ça après quelques minutes. On ne devrait plus voir des galaxies comme ça dans l'atmosphère. D'autres points, là, j'en nomme beaucoup, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plein d'informations, plein de sciences qui nous démontrent que la Terre pourrait être jeune. Nos comètes, alors vous en connaissez certainement quelques-unes, la comète Halley, la comète Shoemaker-Levy qui s'est écrasée sur Jupiter. Ben, les scientifiques ont démontré que les comètes ne peuvent survivre au maximum que 100 000 ans, parce que quand elles tournent, alors quand on voit la traînée en arrière, ben c'est en train de fondre. Alors, c'est de la glace, donc elle fond, et à toutes les fois qu'elle s'approche puis qu'elle tourne autour du Soleil, ou elle s'approche d'une planète qui est relativement chaude, ou elle va se faire, si la gravité est trop forte, elle va éclater ou elle va fondre. Alors, les scientifiques estiment qu'elle ne pourra pas survivre plus que 100 000 ans. Le fait qu'on a encore on voit encore des comètes dans notre système solaire nous démontre que notre système solaire n'a pas des milliards d'années parce qu'il n'y aurait plus de comètes. Donc, c'est sûr que les scientifiques sont au courant de cela. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'il y a un petit dessin à droite, ils ont, il y a plusieurs années, même s'ils ne l'avaient jamais, ils ont sorti une théorie en disant « Oui, mais au-delà de notre univers, il y a une ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper qui n'avait jamais été observée à l'époque. » On disait « Bon, c'est un bassin où il y a plein de glace là-dedans, puis de temps en temps, il y en a une qui s'échappe, qui rentre dans le système solaire. » Donc, mais le problème avec cet argument-là, c'est qu'aujourd'hui, on a des sondes qui ont traversé, et il n'y en a pas de comètes là-dedans. Donc, il y en a qui ont été plus loin, d'autres arguments, parce qu'on essaie de fixer les trous dans notre argument. Bon, on va dire, ah, mais il y a un nuage qui s'appelle le nuage de Oort, et ça aussi, c'est un réservoir de comètes, sauf que lui, il est encore plus loin, et on ne l'a pas vu. Vous voyez, on essaie de réparer en lançant des hypothèses, parce qu'on en voit encore des comètes. Champ magnétique. Dans une prochaine rencontre, je vais en parler un petit peu plus. Le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Et alors, depuis une centaine d'années environ, on le mesure. Et c'est ce qui cause d'ailleurs les aurores boréales, quand on est dans le nord, là, au sud, les aurores australes. Mais c'est ce qui, ça nous protège, le champ magnétique. Et on sait que depuis 1000 ans, ils ont fait l'estimer parce qu'on le mesure. Ils estiment là, qu'on a perdu à peu près 2,7. Elle s'est réduite 2,7 fois. Le champ magnétique est 2,7 fois moins fort. Alors, c'est pas catastrophique. On va survivre, là. Mais si on extrapole et qu'on va à l'inverse, ça veut dire que si dans le passé, le champ magnétique est plus fort, jusqu'à quand on peut reculer comme ça dans le passé? 6000 ans en arrière, ben, on a un champ magnétique qui est extrêmement performant, qui est à la hauteur, qui nous protège bien. C'est pas un problème. 4,6 milliards d'années ou 3,8 milliards d'années en arrière, ben, le champ magnétique est tellement fort que c'est une planète. On est rendu avec ce qu'on appellerait une étoile magnétique. Il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. Donc, le champ magnétique limite l'âge de la Terre, lui aussi. Je ne sais pas si vous saviez, mais la Terre tourne, vous savez, hein, la Terre tourne sur elle-même 24 heures. Mais je ne sais pas si vous saviez qu'elle ralentit comme une toupie. Alors, quand vous partez une toupie, à un moment donné, elle ralentit. Alors, la Terre fait la même chose. D'ailleurs, les scientifiques, ce qu'ils doivent faire de temps en temps, c'est ajuster le temps avec nos horloges qui, eux, ralentissent pas, nos horloges atomiques. Alors, la Terre ralentit d'environ 1 millième de seconde à chaque jour. Et c'est pas difficile à comprendre, dans le sens que si elle ralentit, ça veut dire que dans le passé, elle tournait un peu plus vite. Si on recule 6000 ans en arrière, le calcul a été fait, la journée était plus courte d'environ 36 minutes. C'est pas si pire. Mais si on recule 3 milliards ou 4 milliards d'années en arrière, vous comprenez que la vitesse est tellement grande que là, j'explique qu'on est facile à comprendre où sont les dinosaures. Ils sont partis, ils ont revolé dans l'espace. Mais la vie serait impossible sur Terre. Donc, là aussi, bien, c'est sûr que je présume qu'elle a tout le temps, elle sait tout le temps, la vitesse de Terre est toujours au même rythme. Cosmos 1999, une émission que j'écoutais quand j'étais jeune, la Terre partait à sa Lune. Saviez-vous qu'on est en train de perdre notre Lune aussi? Alors, je ne veux pas vous inquiéter, elle recule d'environ 4 cm par année. J'aime mieux qu'elle recule qu'elle avance, parce que... Mais elle recule de 4 cm par année, ça veut dire qu'il y a 6000 ans, elle est à 800 pieds plus près. Les marées un peu plus hautes, c'est pas un gros problème, mais si je recule 3 milliards d'années, vous me voyez venir, j'ai un gros problème. Un gros problème parce que la Lune, elle s'est écrasée sur la Terre. Donc, c'est un problème. Des petits faits intéressants, puis il m'en reste 2-3 comme ça à vous montrer. Le désert du Sahara. Ce qui est intéressant, c'est que le désert du Sahara s'agrandit. C'est dans le nord de l'Afrique, naturellement, et il s'agrandit à raison d'environ 7 à 8 km par année. Alors, s'il s'agrandit, qu'on fait l'exercice inverse, puis on voit quand est-ce qu'a débuté le désert du Sahara. Supposons que ça s'est toujours agrandi à 7-8 km par année. Mais ça nous recule environ 4400 ans avant Jésus-Christ. Vraiment intéressant, parce que le déluge a eu lieu 4400 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est intéressant de voir que le Sahara nous limite environ à la création du Sahara 4000 ans. Donc, après le déluge. Vraiment intéressant comme données. Une autre donnée qui est intéressante, c'est que vous, à moins que vous ayez une voiture électrique, vous roulez sur l'essence et votre essence provient des puits. Vous savez que le pétrole, ben c'est de la matière vivante qui a été ensevelie rapidement puis qui a été enterrée puis est sous haute pression. Présentement, ce que les scientifiques disent, c'est que la pression est énorme. On parle de 20 000 livres par pouce carré. Quand vous pensez que votre voiture a 35 livres par pouce carré, vos pneus, là j'en ai 20 000 livres par pouce carré de pression. Alors, les scientifiques estiment que la roche ne peut pas soutenir une telle pression parce qu'il y a des petites fissures on sait que la roche va finalement lâcher après 10 à 15 000 ans. Donc, le fait qu'on a encore des puits de pétrole qui sont sous haute pression nous démontre qu'ils ne sont pas là depuis des milliards d'années, mais depuis maximum 10 à 15 000 ans. Donc, ça limite, veut pas, l'âge de la Terre. Celle-là, je l'explique rapidement, c'est que des fois, vous allez écouter des émissions, des documentaires, on explique qu'on a pris une carotte glaciaire, on a creusé dans l'Antarctique, et là, on dit, voyez-vous, on compte les anneaux, et on a pour 20 000 ans ou 80 000 ans d'anneaux. Donc, ça nous prouve que la glace est sur l'Antarctique. Ce n'est pas tout à fait vrai. La raison, je vous dis ça, c'est qu'il s'est passé un événement vraiment intéressant durant la Deuxième Guerre mondiale où un escadron avait été perdu, mais les gens ont été rescapés. Où ce qu'un avion s'était écrasé en 1948, je crois. Et plus tard, on a dit, bon, on va aller récupérer l'avion. On s'attendait qu'elle soit ensevelie. Bon, on ne s'attendait pas qu'elle soit autant ensevelie. Alors, on est allé la chercher une quarantaine d'années plus tard en disant, bon, on va creuser puis on va l'amener dans un musée. Et ils l'ont finalement retrouvé, l'avion, parce qu'ils savaient exactement où il était. Mais il était sous 263 pieds de glace. Et il y en avait des anneaux, beaucoup plus que 263. Alors, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que finalement, les anneaux ne correspondent pas nécessairement été-hiver, mais des fois, c'est froid, redoux, vous comprenez? Donc, on ne peut pas se fier aux anneaux de glace pour donner un âge à la Terre. C'est un petit peu le but de cette image. Le récif de la Grande Barrière de Corail, près de l'Australie, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a été endommagée durant les grandes guerres où on mettait des mines, puis on avait des torpilles et tout ça. Et ils sont allés, les scientifiques, vérifier. Ils ont fait 20 années d'études pour voir est-ce qu'elle va se réparer, est-ce que ça va. Et ils se sont aperçus que finalement, elle est capable de se régénérer, de s'auto-guérir et de reprendre sa place. Mais ce qu'ils sont capables de faire aussi, c'est voir à quel rythme elle croît. Et puis, on peut faire le calcul inverse. Donc, la Grande Barrière de Corail, elle est là depuis combien de temps? Parce qu'on sait son rythme d'accroissement. Donc, quand on recule dans le temps, on s'aperçoit qu'elle a le maximum 4000 ans. Ce qui est intéressant encore une fois, parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a 4000 ans avant notre ère? Ben, c'était le déluge. Donc, c'est intéressant. Plus près de chez nous, même chose avec les chutes Niagara. On sait que les chutes Niagara, avant qu'il y ait dans les années 30, ils ont eu un projet hydroélectrique, mais la chute elle-même reculait d'environ 5 pieds par année par l'érosion. Donc, la chute, on a pu estimer, parce qu'on voit le point de départ, puisque la falaise a commencé, puis on peut reculer jusqu'à la chute d'aujourd'hui. Donc, le rythme a ralenti aujourd'hui parce qu'elle a été déviée, la rivière. Mais à l'époque, on pouvait donner un maximum de 10 000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis capable d'expliquer comment elle a creusé ça en moins de 10 000 ans par un déluge qui a envahi toute cette surface-là assez rapidement. Donc, pourquoi la Terre est des milliards d'années, la chute elle-même devrait être beaucoup plus longue si elle existe depuis plus longtemps, naturellement. Et dernier petit point que je veux vous montrer, c'est les arbres les plus vieux qu'on retrouve sur Terre, encore une fois, c'est intéressant. Les arbres les plus vieux ont environ 4300 ans. Qu'il n'y en a pas de plus vieux? Ben, ma théorie à moi, c'est parce que les arbres ont commencé à repousser après le déluge. Et quand c'est le déluge a eu lieu 2400 ans avant Jésus-Christ, pour aujourd'hui, on est en 2000, un petit peu plus loin, là, ça donne à peu près 4400 ans. Donc, ça rend bien, ça cadre bien ces données-là avec le récit biblique du déluge. Et je termine avec cette diapo qui dit Car ce qu'on peut connaître de Dieu, là, on pourrait se dire, mais pourquoi les scientifiques ayant vu tout cela, pourquoi ça ne les convainc pas que le récit biblique est quand même un modèle intéressant à considérer? Bien, je vais vous lire qu'est-ce que l'Épître aux Romains nous dit là-dessus. Alors, l'Épître aux Romains, ce qu'il nous dit, c'est « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Alors, la Bible dit que quand on tente d'éliminer Dieu, ou de dire, comme on dit dans le dernier verset, dans Psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Dieu, qu'est-ce qu'il dit de cela, de ces scientifiques-là qui croient au Big Bang? Il dit « insensé ». Pourquoi qu'il dit « insensé »? Parce qu'ils éliminent le seul être qui veut restaurer et leur donner une vie éternelle. Alors, je trouve ça malheureux, mais les perfections invisibles de Dieu se voient. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les scientifiques, il y a plein de mystères dans l'univers qui les ébahit, qui les surprend. On voit comment, du plus petit élément, comment cette force qui maintient l'atome ensemble, aux lois et aux règles qui régissent l'univers, c'est surprenant comment tout est ordonné, structuré. Et pourtant, ils essaient d'expliquer, et c'est l'évolution. L'évolution arrive à expliquer, quand j'y arrive, pas de façon convaincante, mais arrive dans sa théorie à expliquer toute l'univers, toute la naissance de la planète, l'homme, sans avoir recours à Dieu. C'est sûr que pour eux, ils vont dire, en ayant recours à Dieu, vous croyez dans une religion, vous croyez dans quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Mais comme je disais la semaine dernière, le Big Bang, ce n'est même pas une théorie. C'est un modèle. Okay? C'est une idée qu'ils ont. Parce que pour être une théorie, faut que tu sois capable de le reproduire en laboratoire, faut que tu sois capable de prédire. Le modèle du Big Bang est modifié constamment pour essayer de répondre à des problématiques qu'il voit, mais il n'a jamais servi comme prédiction de à quoi devrait ressembler l'univers. Le Big Bang est simplement un modèle. Alors, quand on veut mettre de côté Dieu et quand nous-mêmes on veut choisir, vous savez, ça fait l'affaire de certaines personnes, parce que quand on croit dans le modèle biblique et qu'on croit que les évidences, la science s'accordent bien avec le récit biblique, là, on arrive à une donnée qui peut-être pas toujours, qui peut être pour certaines personnes un peu troublante, qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a Dieu, et que Dieu est notre créateur, que Dieu est souverain, et qu'on doit obéissance à Dieu, et que si sa parole est là, bien, il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir cette pensée-là que, oups, peut-être que je suis pas non redevable. La Bible dit un jour, tous seront devant le juge, le juste juge de la terre, c'est Dieu. Un jour, on devra se présenter devant Dieu. On est cru ou pas en Dieu, ça change absolument rien. Un jour, tout genou fléchira, dit la Bible, devant Jésus-Christ. Et on le déclarera qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, aujourd'hui, ça ne change pas le fait que la Bible dit qu'un jour, Dieu va rentrer en jugement avec cette terre et vous aurez aussi à répondre à Dieu. Vous savez, il y a une petite pensée que je disais la semaine dernière. Des fois, on se dit, mais la vie, ça va trop vite que je la gaspille, mais l'éternité est beaucoup trop longue pour négliger aussi cette pensée-là. Et si c'était vrai que Dieu est là? Moi, je suis convaincu que Dieu est là, puis je trouve que les évidences démontrent beaucoup plus que le modèle de création répond bien à ce que la science nous montre. Je n'ai pas répondu à la question pour que 4,6 milliards d'années, je le ferai, comment ils arrivent à ces données-là? Mais naturellement, ils ont besoin de grandes périodes de temps, parce qu'ils ont besoin, par pure chance, un peu comme quand je brasse les dés, que la chance donne la possibilité à l'évolution de faire son œuvre de façon aléatoire. Donc, je termine là-dessus. Ma question dernière, c'est « Connais-tu celui qui créa toutes choses, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le Créateur? » Amen. Bonne semaine, tout le monde.